intervenir.
Au 01 45 24 7000, Michel nous appelle de la Drôme. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci de prendre ma question. Elle est très simple. Qu'est devenue l'industrie dans votre gouvernement? Je pense qu'autrefois, il y avait un ministère de l'industrie de plein exercice qui était fort utile. Pourquoi a-t-il disparu? Et l'industrie se résume-t-elle à un bureau des pleurs au ministère de l'économie? Merci d'éclairer ma lanterne.
Merci. On va... Enfin, notre invité va essayer, Christophe Castaner.
Merci Michel de cette question. L'industrie est placée sous l'autorité de Bruno Le Maire, avec un chapeau global de l'économie et des finances. Un secrétaire d'État vient de le rejoindre, Benjamin Griveaux. Mais vous avez remarqué qu'on a positionné les secrétaires d'État sans portefeuille affecté, parce qu'ils sont auprès du ministre en mission sur un certain nombre de sujets. Et ça peut être effectivement le suivi de dossiers particuliers sur l'industrie. Et donc il y a à la fois les réponses, parce que la question était double de Michel, il y a à la fois les réponses à des situations de crise dans lesquelles le politique doit intervenir, mais le politique ne peut pas tout, il faut le rappeler, il ne faut pas chercher à faire croire des choses. Puis ensuite, il y a la construction politique d'une économie au niveau national, d'une économie ambitieuse, d'une réindustrialisation de la France quand c'est nécessaire. Et ça relève évidemment de l'autorité politique.
Alors,
de Bruno Le Maire.
On est peut-être dans l'ordre du symbolique, mais c'est vrai que les intitulés ont une importance comme ça. Industrie, je crois que c'est la première fois depuis 1958 qu'il n'y a plus de ministre de l'Industrie. Emmanuel Macron lui-même a eu cet intitulé-là dans son ministère, ministère de l'économie, je crois. Et de l'industrie, c'est bizarre, non, de faire disparaître des affectations.
Vous savez, j'ai tenté de faire remonter au Premier ministre la douzaine de ministères sur lesquels j'avais été interpellé ces derniers temps en disant il manque.
Bah oui,
le tourisme, le logement, l'économie sociale, le logement. Et donc, on a un vrai paradoxe. C'est, d'un côté, on veut un gouvernement resserré avec moins de ministres, mais en même temps, on voudrait un peu chacun le sien.
Bah,
donc, il y a vraiment
là,
la volonté de dire vous avez un ministre puissant à Bercy, qui est Bruno Le Maire, dont on connaît les compétences, et qui va chapeauter aussi la politique industrielle avec nos filières industrielles qu'il nous faut défendre et accompagner avec les pôles de compétitivité, par exemple. Il y a le Salon du Bourget. Nous savons que l'aéronautique est un pôle de compétitivité majeur pour notre pays en France. Et il est bien évident suivi par le ministre de l'économie et il sera pour cela épaulé par Benjamin Griveaux.
Emmanuel nous appelle de la région parisienne. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Bonjour à tous. J'avais une petite question toute simple concernant le CDI projet. Pour moi, si vous voulez, la rémunération des capitaux des entrepreneurs se fait par les dividendes parce que c'est eux qui prennent le risque. Dans le cadre d'un CDI de projet, vous transférez le risque sur le salarié puisqu'il ne sait pas la durée de son contrat de travail. Donc à ce moment-là, avez-vous prévu dans votre loi de prévoir des dividendes obligatoires pour les salariés?
Merci Emmanuel. Christophe Castaner.
Non, d'abord, il faut regarder la réalité de notre économie. Moi, je suis élu d'un département où 98% des entreprises ont moins de 20 salariés. La plupart des chefs d'entreprise en France ne vivent pas de la distribution de dividendes. Il y a quelques grandes entreprises, on les connaît, c'est CAC 40. On peut les diaboliser à certains moments, mais il ne faut pas oublier aussi qu'elles contribuent à la puissance économique de la France. Mais il y a une réalité économique qui est celle de nos entreprises, de nos petites entreprises, de ces chefs d'entreprise qui, quand il y a des moments de tension, ne se payent pas parce qu'ils veulent payer leurs salariés en premier. C'est aussi cela la réalité. Et puis il y a des abus. Il faut sanctionner les abus. Et la supervalorisation du capital et du coût du capital est effectivement un vrai problème. Mais je voudrais revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que le CDI de projet reste dans notre esprit, je n'ai pas dit qu'il y aurait une traduction législative sur ce sujet, un CDI avec tous les droits protecteurs du CDI. Aujourd'hui, il existe déjà. Il est encadré par la loi.
Il y a des contrats de chantier, nous font remarquer plusieurs auditeurs qui nous ont appelé, des contrats de chantier possibles dans le BTP. Mais, sauf que ce CDI n'a de CDI que le nom, puisque le I de CDI, c'est indéterminé, contrat à durée indéterminée. Là, la fin du contrat est déterminée par la fin du chantier, précisément, ou du projet, Christophe Castaner.
Alors, c'est effectivement la référence, quand je vous dis qu'il existe dans la loi, c'est effectivement ce que vous disent les
contrats de chantier.
Mais une entreprise qui a une commande sur un gros marché, elle va avoir deux solutions. Soit elle fait appel à des boîtes d'intérim, et pendant les 18 mois du chantier, elle va payer par l'intérim avec des contrats d'un mois renouvelables et donc une vraie précarité. Soit elle assume le CDI, et le CDI, on peut le rompre à un moment donné. Et je le dis, il ne faut pas faire peur aux Français qui ont un CDI, mais on peut le rompre et ça représente un coût. C'est plus protecteur. Et donc le CDI de chantier, qui existe par exemple en France aujourd'hui, donne des droits supplémentaires aux salariés, mais quelque part, il est logique pour l'entreprise. Si on veut lui donner l'obligation de faire un contrat fort, c'est-à-dire un CDI, de faire en sorte qu'elle puisse à un moment donné le rompre quand elle n'a plus de commande. Ou alors la solution c'est quoi? C'est l'intérim ou l'entreprise qui se casse la figure et qui dépose le bilan parce qu'à un moment donné, elle n'a plus de chantier. Elle a une masse salariale qu'elle doit continuer à sortir tous les mois et donc elle ferme. C'est ça aussi la réalité de certains blocages. On pense que ce sont des libertés supplémentaires ou des droits supplémentaires et en réalité ce sont des fragilités supplémentaires. On peut libérer le travail et en même temps donner plus de sécurité aux salariés.
Question encore intitulée et affectation. J'imagine que vous avez la liste du gouvernement sous les yeux, Christophe Castaner.
Je confirme.
Donc Stéphanie du Morbihan, vous avez 10 secondes. Qui est désormais en charge des personnes âgées?
C'est la ministre qui est globalement en charge de la santé, du soin en France, parce que dans cette société du care dont on a besoin, il y a évidemment le pilotage sur la question de la santé. Et c'est toute cette approche-là, et donc c'est ce qu'on appelle la solidarité, la santé, et c'est Madame Buzyn.
Donc c'est la ministre de la Santé, très bien. Frédéric nous appelle de Région Parisienne, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour donc à l'équipe du 7-9 et à Christophe Castaner. Je voulais interroger Christophe Castaner sur le statut des collaborateurs parlementaires, puisque nous avons aujourd'hui un projet de loi sur la moralisation de la vie publique qui n'apporte la question que sur le biais des emplois familiaux qui vont servir de victimes expiatoires sans que ça règle en rien la question des emplois fictifs. On a aujourd'hui un bon millier de collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale qui sont en train d'être licenciés sur des procédures qui ne respectent pas le code du travail. Et dans le projet de loi, il n'y a rien qui fixe le statut professionnel des collaborateurs parlementaires avec des règles déontologiques et des garanties pour le respect de leurs droits sociaux et de leurs droits du travail. Donc hier, il y a René Dosière qui a été interrogé sur cette question et qui a répondu à côté de la question, puisque la fameuse association d'employeurs dont il parlait est de fait dissoute et que l'accord collectif à l'Assemblée nationale, qui était très léger, n'est plus actif. Donc est-ce que le gouvernement va prendre en compte le fait que s'il faut avoir de l'éthique en politique et s'il faut avoir de l'éthique dans la vie publique, la question du statut des collaborateurs, sa définition et du respect des droits sociaux des collaborateurs parlementaires doit être traité, ce qui ne l'est pas aujourd'hui.
Merci Frédéric. Collaborateur, ancien collaborateur?
Collaborateur parlementaire au Sénat et responsable du syndicat CGT des collaborateurs parlementaires.
Merci de l'avoir précisé, Christophe Castaner.
Vous savez, on est sur quelque chose de compliqué parce que ça touche des situations individuelles. Mais au fond, ça va rebondir sur la question précédente. Quand vous êtes élu député, vous êtes élu pour 5 ans. Et bien, vous signez un CDI avec vos collaborateurs. C'est un contrat de droit privé, un CDI. Et pourtant, vous savez qu'au bout de 5 ans, vous avez quelques chances de ne plus être là. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cas avec ce paradoxe qu'ayant été nommé ministre, j'ai une bonne raison pour licencier mes collaborateurs et leur envoyer une lettre en recommandé pour préparer l'entretien préalable de licenciement. Bon, moi, je pense par exemple qu'on devrait effectivement conforter le droit de nos collaborateurs, mais que quelque part, on soit clair avec eux et qu'on leur dise, voilà, le contrat, il est pour 5 ans parce que moi, employeur, je suis là pendant 5 ans. Si dans 5 ans, je ne suis plus là, ça va être difficile de te garder. Et que du coup, on ait des règles claires entre nous, ça mérite d'aller loin. Mais qu'on veuille faire vivre cette chimère de dire, un député qui est là pour 5 ans embauche en CDI et va garder son collaborateur toute une vie, ça fait partie de cette différence entre les droits officiels, les droits écrits et la réalité qui fait que quand vous n'êtes plus là, vous ne pouvez plus payer vos collaborateurs.
Françoise nous appelle de Castelnau. Bonjour.
Oui, messieurs, bonjour. Monsieur Castaner, je souhaiterais que vous me disiez ce que vous pensez de cette réflexion dans une république irréprochable. Je voudrais savoir en quoi un ou plusieurs ministres contraints à la démission sous le poids des affaires serait-il plus légitime au poste de président de groupe parlementaire, à plus forte raison s'il est autoproclamé sans même attendre d'avoir été élu.
Merci Françoise.
Je pense qu'il faut appeler un chat, et donc cette question porte sur Richard Ferrand. Et donc, moi je vais être très clair, Richard Ferrand n'a pas été choisi parce qu'il y a une tourmente médiatique qui l'a concerné. Il a été choisi parce qu'il est celui qui incarne La République En Marche et qui incarne les candidats qui ont été députés. Je crois même que nous ne sommes pas nombreux, et je me mets dans l'eau de ceux qui auraient pu incarner ce poste-là. Et Richard a été choisi parce qu'il est celui qui est en capacité de rassembler ce groupe assez hétérogène.
C'est président du groupe parlementaire, il a été élu?
Il sera élu ce week-end, mais il était choisi comme candidat.
Vous êtes sûr qu'il sera élu? Vous êtes ministre, vous faites partie de l'exécutif?
Non, j'en suis convaincu parce que
depuis
trois jours, il y aura peut-être plusieurs candidats, mais depuis trois jours, je rencontre beaucoup de parlementaires, je suis à l'Assemblée, je discute avec eux, et je peux vous dire que personne ne m'a parlé de l'illégitimité de Richard Ferrand. Tout le monde sait ce que Richard Ferrand a fait dans cette construction
politique. Là, ça ne concernait pas Richard Ferrand. Je trouvais que de la part d'un ministre, dire il a été choisi s'agissant du futur président d'un groupe parlementaire, du point de vue de la séparation des pouvoirs, vous avez raison, un petit peu fort.
Vous auriez pu me reprendre si j'avais dit je l'ai choisi, ou le Premier ministre l'a choisi. Il a été choisi pour moi, c'est le mouvement politique La République En Marche, qui présente son candidat de La République En Marche.
Beau retournement de un double salto arrière là quand on dirait.
Et tout le matin, c'est une souplesse
effectivement remarquable. Didier nous appelle de Colmar. Bonjour Didier.
Oui, bonjour, bonjour monsieur Castaner, bonjour à toute l'équipe. Moi je voulais vous parler du nivellement des droits publics, privés et indépendants libéraux, parce que c'est encore différent. Par exemple, la suppression des jours de carence ou bien le rajout des jours de carence, suivant de quel côté on se place. Le nivellement des retraites entre tous les groupes et surtout la suppression des retraites chapeaux, enfin qui est pour moi une véritable escroquerie. Et qu'en a-t-il des avantages de certains groupes SNCF, EDF, RATP qui sont assez hallucinants. Moi, je suis en libéral, je vis très très bien, mais je prends pas le train avec ma famille, c'est beaucoup trop cher en fait. Donc juste pour apaiser les esprits et peut-être que pour que la population sente que tout le monde se traite un peu de la même manière, et ben un nivellement des droits et des devoirs et des efforts. Merci.
Merci Didier. Christophe Castaner.
Sur la question des retraites, parce qu'il y a plusieurs questions dans le propos de Didier, mais je vais me concentrer sur celle de retraite. Il y a une proposition forte d'Emmanuel Macron de faire en sorte que, à l'échéance d'une dizaine d'années, en faisant en sorte que l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation ne soient pas remis en cause, les 37 régimes de retraite qui existent en France et qui sont tous différents les uns des autres, qui sont par nature inégalitaires, soient effectivement rassemblés et qu'on puisse avoir pour 1 euro cotisé quand on est agriculteur, commerçant, fonctionnaire, animateur, journaliste à France Inter, les mêmes droits de la retraite. Et donc je pense que c'est plutôt juste et qu'il ne s'agit pas d'un nivellement par le bas, mais il s'agit de créer des droits identiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte la différence de travail. La pénibilité est un sujet qui doit créer des droits supplémentaires pour partir, par exemple, plutôt à la retraite.
Très bien, et bah, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va accueillir Augustin Trapenard et retrouver Frédéric Becbédé. À tout de suite.